C'est la reprise des visites radiophoniques saison 2020-2021, toujours en compagnie de Nelly Lafond du Pays d'Art et d'Histoire. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et Caroline Entraigue du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Ben, content de vous retrouver après cet été. L'été s'est bien passé Nelly?
Oui, super bien. On est ravis de te retrouver et d'amener le public pour de nouvelles visites radiophoniques.
Alors justement, aujourd'hui, vous m'emmenez où?
Alors aujourd'hui, c'est une visite un peu particulière. On va pas parler que d'architecture, on va visiter une forêt.
Mais on sort de votre patrimoine et de vos vieilles pierres?
Ben oui, Ludo, tu sais bien que le patrimoine, ce n'est pas que les vieilles pierres, ce n'est pas que Stéphane Bern, des racines et des ailes. C'est aussi tout ce qu'il y a autour.
Donc c'est le patrimoine naturel, c'est ce qu'on appelle un patrimoine vivant. Et donc on visite une forêt parce que c'est également un patrimoine au même titre qu'un château comme Château du Tournel.
Donc, nous allons aujourd'hui t'amener visiter une forêt et sa maison forestière. Nous allons parler d'arbres remarquables des fois, quelquefois d'agriculture, d'architecture. Enfin voilà, on va voir un peu tout ça et donc on t'amène en forêt de la Loubière. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Un peu de route depuis Mende en passant par Badaroux et Bagnoles, et on arrive où?
Alors là, on arrive au sommet, au col de la Loubière. On est donc en plein cœur du parc national des Cévennes. On est sur les contreforts nord du mont Lozère. On a à l'ouest tout le Val d'Aunaise, donc on peut aussi venir par ici via la Nuéjouls. Au nord, on a le Causse du Masseguin qui nous sépare de la vallée du Lot, donc Saint-Étienne et Bagnoles-les-Bains. Et à l'est, on retrouve les clochers de Tourmente avec les hameaux d'Auriac, d'Essagne, d'Oulté, sur ce contrefort nord du mont Lozère. On est contre la route départementale 41, qui est une ancienne voie également romaine, mais Nelly vous en parlera un peu mieux tout à l'heure. Et on est également le long d'une ancienne draille des troupeaux du Languedoc qui passait par Chadonnet puis par la Loubière. Et enfin, pour ceux qui aiment randonner, la forêt de la Loubière est traversée par le GR43 qui relie Sainte-Lalie au col des Faïs. C'est non loin de Bar-des-Cévennes. Donc on est ici vraiment sur un point culminant sur cette forêt de la Loubière, sur ce contrefort nord du mont Lozère. Et on est le long de voies de communication qui remontent quand même à l'époque des Romains.
Et oui, tout est lié. Tout ce secteur se caractérise par une forte occupation à l'époque gallo-romaine. Donc on a vu ensemble le mausolée de la Nuéjouls. On a à Bagnoles-les-Bains les fameux thermes romains. On n'a pas loin non plus les mines du Mazel qui ont été exploitées dès l'époque gallo-romaine. Donc il faut vraiment imaginer ici une fréquentation du territoire à l'époque gallo-romaine. Alors nous, on va pas remonter aussi loin, puisque les premières mentions de la maison de la Loubière remontent seulement au Moyen-Âge. Mais il faut garder que dès l'époque gallo-romaine, on a une vocation agricole sur ce territoire. On va le garder en tête parce qu'on va en reparler plusieurs fois le long de la visite.
Alors une vocation agricole, ça ne saute pas forcément aux yeux pour l'instant, là, quand on est en pleine forêt. D'ailleurs, on est devant un arbre majestueux, vraiment énorme. C'est quoi comme arbre?
Alors, c'est un séquoia géant. Le séquoia est originaire de la Sierra Nevada de Californie. C'est une espèce qui a largement été installée dans les parcs. Alors, pourquoi il a été largement installé dans les parcs? Parce que c'est un arbre qui pousse très vite, qui va grossir et grandir beaucoup plus vite que d'autres espèces. Donc, il va être rapidement assez préféré pour les parcs autour de demeures un petit peu bourgeoises ou de caractère.
D'accord, je pensais qu'il était très âgé, mais donc pas forcément.
Alors, il est certainement rattaché à la forêt qui a été plantée, mais ça, on y reviendra. Mais oui, en fait, c'est un arbre qui va pousser beaucoup plus vite que d'autres. Et certains considèrent qu'il a peu de mérite comparé à d'autres espèces parce qu'effectivement, il a des capacités, on va dire, de pousse assez exceptionnelles.
On poursuit jusqu'à la maison forestière ?
Allez.
Allez.
Et voilà, nous voilà arrivés à la maison forestière. Donc ça y est, on les retrouve, vos vieilles pierres.
Bah oui, on ne pouvait pas s'en passer. De toute façon, on ne peut pas parler du paysage sans parler d'architecture et vice-versa. Donc ici, nous sommes devant un ensemble de bâtiments. Une maison forte, une maison bourgeoise de caractère avec plusieurs ensembles. Et donc on va le détailler avec Caro, mais voilà, les parties les plus anciennes remontent au Moyen-Âge.
Alors qu'est-ce que fait cette maison au milieu de nulle part ?
Alors cette maison, elle est attachée à un grand domaine agricole, hein. On y revient, cette fameuse vocation agricole. Et donc était certainement aussi positionnée de manière stratégique, hein. Caro l'a bien expliqué, on est donc en haut, proche du col du Masseguin, donc sûrement voilà, une position qui permettait une surveillance sur ce secteur-là.
Alors tu nous parles de domaine agricole, mais il n'y a pas de champs ou de prés ?
Alors ça, il faut imaginer à l'époque, puisque aujourd'hui autour de nous c'est une forêt, mais à l'époque donc tout le paysage était réservé pour le pâturage, qui était l'essentiel de l'économie locale, vraiment l'économie agricole. Donc on a un paysage qui était plus proche de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le Mont Lozère ou sur le Brac, c'est-à-dire un paysage quasiment nu et peu planté. Et ce qui nous rappelle cette vocation agricole, c'est derrière toi, Ludo, donc on voit sur ce côté nord, on voit deux grandes granges derrière nous qui viennent un petit peu encercler cette maison forte et donc qui rappellent vraiment cette vocation complètement agricole. Le premier bâtiment qu'on voit, donc c'est celui qui est côté nord, c'est la partie grange justement, qui elle, potentiellement daterait du XIIIe siècle, mais on n'est pas encore sûr de la datation. C'est un bâtiment qui est assez beau, en pierre apparente. Alors, on voit justement toute la richesse de ce territoire, cette richesse géologique, et qui va aussi amener toute cette richesse botanique en fait. On a à la fois du grès, du schiste bien sûr, et du calcaire. Les pierres calcaires plus tendres vont être celles qu'on va utiliser pour tout ce qui est ouverture. On voit hein, sur la tour d'escalier que les portes, les détails de portes ont été sculptés. Le schiste, on le trouve également sur ce territoire, et un petit peu de grès.
Donc voilà, pour rebondir sur ce que disait Caro, donc on a un bâtiment principal pardon, qui a été extrêmement remanié, qui va être repris au fil des siècles. Et donc aujourd'hui, on a un bâtiment qui s'échelonne en gros du XIVe au XVIIe siècle. Donc extrêmement compliqué de faire une lecture des différents éléments, mais simplement il faut retenir qu'on a un bâtiment principal qui est le bâtiment d'habitation que Caroline va nous décrire plus en détail, et puis autour des bâtiments d'exploitation agricole avec ces fameuses granges qui entourent ce bâtiment résidentiel, on va dire, sur le nord.
Alors cette maison, elle a un petit peu deux fonctions. Donc il y a la fonction agricole qu'on a vu avec ces espaces de grange. Il y a également la fonction résidentielle. On peut le voir avec la partie qui est ici au sud, qui est vraiment le logis. On a quand même ici des grandes ouvertures. On voit des fenêtres avec des traverses. On voit une autre fenêtre à meneaux, mais c'est pareil, ça a été beaucoup remanié, donc difficile ici de donner des datations précises. Le bâtiment s'organise en U. Donc la grange d'un côté, le logis de l'autre, et face à nous, on voit une grande tour d'escalier. Et là, on peut voir une deuxième, voire troisième fonction, qui est la fonction un petit peu défensive. Est-ce que tu vois, Ludo, les grandes pierres qu'on appelle des corbeaux au-dessus de la porte d'entrée ?
Oui, absolument.
À ton avis, à quoi ça pouvait servir ?
Les pierres qui sortent de la façade, je ne sais pas, des anciennes latrines ?
Non, c'est donc une ancienne bretèche qui servait à défendre du coup la tour d'escalier.
Eh oui, on n'installe pas des toilettes au-dessus d'une porte, même si ça pourrait être un moyen de défense efficace.
Et puis derrière, on va trouver un four à pain, donc pour vraiment compléter toutes les fonctions de ce corps de ferme qui est à la fois un corps agricole et à la fois une maison bourgeoise, une maison d'habitation qui a été fortifiée, en tout cas protégée.
Voilà, alors maison demeure bourgeoise, on va dire. Donc il y a plusieurs propriétaires qui vont s'y succéder, avec les premiers, donc première mention en 1259 dans un document traitant de la baronnie du Tournel. Donc on revient à notre fameuse baronnie du Tournel, puisqu'au Moyen Âge on est donc sur le domaine de cette énorme, de cette puissante baronnie. Et donc la Loubière a sûrement été un poste avancé de garde sur ce territoire-là. Et donc le premier propriétaire est donc Ébrard de la Loubière, un damoiseau, qui fait hommage en 1258 à Odilon Guérin pour son château de la Loubière. C'est la première mention. Alors, du Moyen-Âge, il reste peu de traces dans le bâtiment, on va dire, mais par contre, on peut voir sur la façade deux blasons, deux beaux blasons, dont un qui est situé au-dessus de la tour d'escalier. Alors, un peu plus difficile à déchiffrer, mais on voit qu'il y a deux poissons, forme de
truite,
on va dire, deux poissons. Et donc ça, c'est le blason des deux Lestang, qui vont être propriétaires, eux, au XVIe, XVIIe siècle. Voilà. Et puis le deuxième blason, donc, qui est situé au-dessus d'un arc en anse de panier, une sorte de loggia, on va dire. Le terme est peut-être un peu mal choisi, mais une sorte d'encorbellement au-dessus, voilà, d'une porte, qui est un peu plus récent. On voit que la facture n'est pas du tout la même, avec un loup ou un chien. Donc, est-ce que loup nous renvoie à Loubière? Voilà. Hypothèse, mais rien n'est sûr.
Et donc aujourd'hui, cette habitation, elle est privée, donc on ne va pas pouvoir visiter l'intérieur, hein, bien sûr. C'est une propriété de l'ONF qui gère donc le site de la forêt de la Loubière. C'est un site qui a été propriété de l'État depuis 1879.
Sinon, pour revenir aux propriétaires, il y a eu d'autres propriétaires connus?
Oui, alors après, la famille de Lestang, la propriété va passer aux mains des deux Roux, une famille consul de la ville de Mende, puis à la famille Dupont de Ligonnès, qu'on connaît bien, on en a déjà parlé quand on a fait la visite au foirail.
Oui.
Voilà, donc la famille Dupont de Ligonnès, qui était donc alliée aux Roux par mariage. Et puis, peut-être qu'on peut citer également les Dupont, qui vont être aussi associés à cette famille Dupont de Ligonnès jusqu'aux années, jusqu'au 1827, quelque chose comme ça. Enfin, au 19e, on va dire, retenons que jusqu'au 19e, la propriété est dans les mains de la famille Dupont de Ligonnès, ou en tout cas ses héritiers, ou par mariage avec d'autres familles, pour après passer ensuite domaine d'État.
On arrive à un endroit, c'est magnifique, Caro.
Oui, là, on a pris le sentier pour s'enfoncer dans la forêt. Alors, c'est une forêt qui est très intéressante, parce qu'elle est intéressante à la fois pour les randonneurs, puisqu'elle est vraiment très agréable. Tu vois, on a passé des petits endroits un petit peu ombragés, un petit peu au soleil, et également pour tout ce qui est botanique, parce qu'on a une forêt donc, qui est extrêmement variée. Et là, on arrive dans cet amphithéâtre un petit peu de verdure, une percée, une trouée dans cette forêt. On peut voir autour de nous qu'il y a énormément d'essence d'arbres, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et à la lisière, comme ça, on voit quelques noisetiers, quelques sorbiers, quelques alizés qui viennent garantir un peu cette ouverture un peu de milieu. Ici, c'est bien sûr pâturé, hein, c'est pas naturel que ce milieu soit ouvert, sinon il serait rempli de genêts et petit à petit la forêt viendrait d'elle-même se refermer. Donc c'est vraiment un espace agricole de pâturage. Et tu vois juste derrière toi ces bosses qui viennent faire comme des petites marches, vraiment un amphithéâtre de verdure qui est la trace en fait d'une ancienne plantation. Mais je vais laisser Nelly vous raconter l'histoire de ces bosses et de cette plantation.
Oui, donc en fait, cette plantation dont parlait Caro, c'est une ancienne pépinière. Donc cette forêt domaniale dans laquelle on se balade aujourd'hui, elle est essentiellement composée de sapins. Elle est aussi belle qu'une sapinière vosgienne, mais elle est d'origine donc artificielle, on l'a dit. Elle a été implantée à la fin du 19e siècle sur ce fameux grand domaine agricole qui a été acquis en 1879 par l'État. Ici, le sapin règne en maître sur ce versant humide qui ne voit que rarement le soleil. Et à la fin du 19e, donc, les forestiers ont fait le choix du sapin et de l'épicéa pour ces versants exposés au nord, au sol profond et frais. Et l'ampleur du chantier a nécessité l'installation d'une pépinière temporaire pour que les plants élevés sur place s'adaptent au mieux aux rudes conditions locales. Et donc on a ici donc les traces de cette ancienne pépinière. C'est pour ça qu'on a cette forme de gradin en fait qui permettait d'installer les plants. On a aussi les traces derrière nous des anciennes cabanes à outils qui sont toujours visibles.
Pourquoi ça a été reboisé?
Alors comme on disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que à l'époque c'était des espaces très pâturés où il n'y avait quasiment plus d'arbres. Et c'est vrai que sur ces fortes pentes, on avait un gros phénomène d'érosion des sols. C'est-à-dire qu'il y avait un ravinement très important. Et donc, l'herbe, déjà, avait un petit peu de mal à tenir. Et donc, on a commencé à reboiser voilà, au XVIIe et au XVIIIe siècle avec une idée de restauration des terrains de montagne. Puis ensuite, donc, la pépinière départementale est créée par la Société agricole de Lozère en 1855. Et on a commencé par le reboisement de Saint-Privat, qui est au-dessus de Mende. Lui, c'est un reboisement qui est avec du pin noir d'Autriche. C'est pas le même type de pin que ce qu'on va trouver ici. Et après-guerre, on va avoir un nouvel effort encore de reboisement. Là, c'est pas forcément pour les questions de ravinement et d'érosion des sols, mais plutôt pour la question de la déprise agricole. Et donc, la forêt de la Loubière, telle qu'on la connaît un petit peu aujourd'hui, ça n'a rien de naturel. Ce que les gens ont du mal à comprendre quelquefois, c'est qu'un espace qu'on appelle naturel n'est pas du tout naturel. Ici, c'est une forêt qui a vraiment été construite par l'homme, en quelque sorte, au même titre qu'un bâtiment. On va retrouver des zones où on a du hêtre, qui est l'essence locale, qui était l'essence certainement présente ici naturellement. Mais après, tout ce qu'on va trouver comme autre essence d'arbres sont plutôt des arbres qu'on va venir planter et qu'on a choisi de planter à tel endroit. Donc le choix des plantations se fait selon le versant, l'ensoleillement mais aussi l'humidité, mais aussi et surtout par la nature du sol. Et ce qui est très intéressant, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'ici, on est sur une variété géologique importante. On va avoir à la fois du calcaire, à la fois du schiste, à la fois un humus très important sur le fond de la vallée, ce qui fait qu'on a vraiment cette diversité botanique qui est extrêmement riche et extrêmement importante. Donc le sapin et l'épicéa, on va venir les installer, comme le disait Nelly, sur les pentes humides qui voient rarement le soleil, car exposées au nord, un sol profond et frais. Et donc ce choix de plantation de sapins et d'épicéa demande la pépinière donc, sur place dont vous a parlé Nelly. Sur les sommets, donc là on est plutôt sur une zone calcaire, on va retrouver ce qu'on retrouve sur les Cosses de manière plus générale, c'est-à-dire le pin noir d'Autriche. Et ensuite, en dessous, donc sur les pentes qui, elles, sont en schiste, on va plutôt conserver les hêtres et les pins sylvestres, qui sont là plus naturels. Et on va également installer un petit peu d'épicéa, puisque du coup, le hêtre et le sapin viennent enrichir le sol et permettre à l'épicéa de pousser avec un sol qui est très riche. Et donc, ce choix d'essence, on le voit ici, sur un micro-lieu qui est la forêt de la Loubière, mais ça a également été réfléchi à l'échelle de la Lozère. On ne va pas trouver les mêmes pins qu'on se trouve sur la Margeride ou sur les Cévennes. Donc sur l'Écosse, comme on l'a vu, le pin noir d'Autriche. Ensuite, on va trouver le pin sylvestre, qui lui est plutôt sur la région de l'Aubrac et la partie nord-ouest de la Margeride. Ensuite, on va avoir un peu de pin laricio sur la zone d'Écosse et des gorges, et enfin un petit peu de pin maritime vraiment sur le sud des Cévennes. Donc il y a vraiment une diversité de pins assez importante en Lozère due à cette richesse géologique et climatique.
Et pour rebondir sur ce que vient de nous dire Caro, donc ici sapin, et bien pas loin d'ici, donc dans le petit hameau d'Aurillac, on a un arbre remarquable, un sapin pectiné, qui est le plus grand arbre remarquable du pays d'Arrêt d'Histoire, puisqu'il approche les 40 mètres de haut, et qui a sûrement été planté là, en même temps qu'a été reboisé cette forêt en fait, hein, l'espace, on va dire.
Aurillac, on y était allé pour les clochers de Tourmente ou on n'avait pas pu? Je ne me rappelle plus.
Alors, je crois qu'on n'y était pas allé, mais effectivement, on a donc ce bel arbre remarquable à aller voir, mais aussi un beau clocher de Tourmente en schiste.
Donc on a continué un peu à s'avancer dans la forêt et là on arrive à une nouvelle clairière, Caro.
Oui, donc c'est une autre clairière. Elle est assez intéressante celle-ci parce qu'on a vraiment un panorama de l'ensemble des essences qui sont présentes sur ce territoire et des ambiances de forêt, des milieux de forêt que l'on trouve sur toute cette forêt et ce sentier. On a traversé ensemble une zone humide, on avait des zones plutôt sèches sur les plateaux, là on redescend sur une zone humide. Et ici, on est dans une zone qui a un peu plus de feuillus, donc qui est vraiment l'essence, notamment le hêtre, qu'on trouvait plus naturellement et qui vient s'installer ici en bas sur le sol, comme on disait, plus frais et plus profond. Donc pour différencier un peu ces deux types de forêts, on a vraiment la forêt qu'on appelle en CP, c'est-à-dire comme on voit là-bas les arbres naturels, c'est-à-dire il y a plusieurs troncs à la même base, donc c'est plutôt une forêt qui va être naturelle. Et sur notre partie droite, on a ce qu'on appelle une futaie, où là on a vraiment des arbres, des troncs, droit, qui cherche à monter vers le ciel. Donc toute cette partie futée va être vraiment le bois dont on va vraiment servir pour l'exploitation forestière. Le tronc est droit, on peut s'en servir pour la construction notamment. Et toute cette partie un peu en CP va être la partie un peu plus naturelle ou des repousses du renouvellement naturel suite à une coupe. Le hêtre traduit vraiment ce territoire montagnard. On le trouve de très belles étrées en Lozère, sur l'Aubrac notamment, il y a de très très belles étrées.
Et c'est pour ça qu'on a aussi de très beaux êtres remarquables en Lozère, hein, puisque c'est une essence autochtone hein, qui est locale. Donc pour en citer quelques-uns, et notamment un des très très beaux du Pays d'Arrêt d'Histoire, le fameux hêtre de Vérine sur la commune d'Alenque, qui a été labellisé arbre remarquable par l'association Arbre, qui mérite vraiment le détour parce que c'est un hêtre qui est implanté dans un champ où les vaches viennent s'assoupir sous son ombre. Et voilà, à découvrir parce qu'il est vraiment magnifique. Et puis sinon, le fameux Bartassou à Saint-Frézal d'Albuche, qui est, comme le disait Caro, une CP, hein, c'est-à-dire que c'est un hêtre avec trois troncs en fait, hein, qui partent de sa base, ou encore le hêtre de Chasserades.
La présence de la forêt en Lozère, ça correspond à quoi ? Quelle est son importance ?
Alors, il faut savoir déjà, on va parler à l'époque de Languedoc-Roussillon. Excusez-nous, on n'a pas les chiffres de la région Occitanie, donc on va parler plutôt Languedoc-Roussillon. Donc c'est vrai que c'est le département le plus forestier de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, avec Occitanie, on n'est pas forcément dans les premiers, mais en tout cas, à l'époque de Languedoc-Roussillon, c'était vraiment le territoire le plus forestier. On a 45% du département qui est couvert par la forêt. C'est une donnée de 92. Hein. Donc c'est quand même assez énorme. On a une majorité de résineux, 67%, et un tiers de feuillus, 33%.
Voilà, pour donner quelques chiffres, 47% du département, disait Caro, ça représente à peu près 230 000 hectares de couvert forestier en Lozère, donc ce qui est énorme. Et ce qu'il faut rappeler peut-être aussi, c'est que la filière bois représente à peu près 2000 emplois. En Lozère, donc c'est emploi direct et indirect. Donc c'est une filière créatrice d'emplois.
Et ce qui caractérise vraiment la forêt lozérienne, c'est que c'est une forêt qui est jeune, essentiellement de première génération, donc c'est-à-dire de ces plantations qui sont faites au 19e et les plantations d'après-guerre, avec une dominance de conifères, comme on l'a vu, à peu près deux tiers. C'est une forêt qui a plusieurs fonctions. Et c'est une forêt qui parfois est morcelée. Donc ici on est dans un grand domaine ONF, mais on a beaucoup de petits espaces sur des parcelles différentes de forêts privées.
C'est vrai que la majorité de la forêt lozérienne est propriété de propriétaires privés.
Alors on a continué à s'enfoncer pour atterrir dans une nouvelle clairière, encore plus grande cette fois-ci, avec une retenue d'eau.
Oui, alors on va parler de la retenue d'eau juste après. Là on n'est pas tout à fait dans une clairière, on est plutôt dans ce qu'on appelle le fond de vallée, donc on va appeler ça le Valat, hein, le fond d'une petite vallée. Et donc c'est ce qu'on appelle le Valat du Praliou. Donc ici on a plutôt de la culture, on a traversé un champ avec de la luzerne. Le tout est encadré d'une très belle forêt avec une grande diversité d'essences comme on l'a vu à chaque fois. Ici on voit peut-être un petit peu plus les parties qui ont été plantées de feuillus. Puisqu'en fait les peupliers que l'on a juste devant nous, ça c'est vraiment une essence qui a été plantée, hein, le peuplier. Et après quelques hêtres, bien sûr toujours ces pins aussi majestueux autour de nous, avec une majorité de résineux. Et donc cette diversité, elle permet d'accroître aussi la richesse biologique de la forêt et toute la biodiversité qui va s'y trouver autour. Donc devant nous, comme tu l'as vu, ce fameux plan d'eau qui a été aménagé pour assurer la protection contre les incendies en 1975. Et donc ce plan d'eau, il vient compléter toute cette trame qu'on appelle la trame verte et bleue et qui permet vraiment de compléter la biodiversité du site et l'enrichissement des milieux. Puisque autour, on voit qu'il y a quelques sols qui se sont mis pour consolider un petit peu les berges, les naturaliser. Et autour, du coup, on va avoir les crapauds, les hérons, les libellules. Donc vraiment, tout ce maillage de milieux permet une grande diversité botanique, mais aussi autour de la faune, évidemment.
Nelly, je crois qu'il y a une particularité sur la construction de ce plan d'eau.
Oui, alors pas que sur la construction du plan d'eau, on n'y est pas encore passé devant, mais à l'entrée en fait du sentier, du départ du sentier, il y a une stèle à la mémoire des harkis, puisque les harkis ont participé à la reforestation de tout ce domaine et donc à la construction de ce plan d'eau. Pour revenir un peu à l'histoire des Harkis, donc à la fin de la guerre en Algérie et suite à l'indépendance en 1962, beaucoup de Harkis, d'ailleurs ils seront en surnombre, hein, vont être accueillis en France dans des conditions extrêmement précaires, dans des camps militaires, pour une période qui devait être transitoire. Donc selon les endroits, ça va durer 1-2 ans et un petit peu plus. Et l'objectif de ces camps militaires est de trouver pour chaque famille un emploi, un logement, des conditions indispensables pour pouvoir quitter le camp. À partir de 62, en fait, l'État va ouvrir une soixantaine de chantiers de forestage concentrés dans le sud de la France. Et parmi ces 60 chantiers de forestage, 6 vont voir le jour en Lozère, dont le chantier de forestage de Chadenay. Alors, on sait que le camp de Harkis ici, donc, qui était installé à la Loubière, hein, il faut imaginer des baraquements ici, va ouvrir en mars 63 et va perdurer jusqu'en novembre 64, donc un an et demi. Mais ça ne veut pas dire que les Harkis ne vont plus travailler ici par la suite. Ça veut simplement dire qu'à partir de 64, les Harkis vont être relogés, vont être pour la majorité relogés sur Mende. Donc on sait qu'il y avait 25 hommes, dont 25 travailleurs, 18 femmes et 44 enfants, dont 16 scolarisés, qui vont être scolarisés à Bagnoles-les-Bains. Pour donner un chiffre un peu plus général, il faut en Lozère, on a compté en 1963 642 Harkis en Lozère accueillis. Peut-être qu'on peut rajouter, c'est que le dernier hameau de forestage lozérien ferme durant l'été 1967, donc 3 ans après celui de Chadenay. Les témoignages de l'époque, donc évidemment, il faut imaginer des conditions de vie extrêmement dures, très précaires. On sait que les Harkis avaient des conditions de vie vraiment très difficiles dans ces camps qui étaient faits pour ne pas durer et qui finalement vont s'éterniser un peu.
Comme souvent.
Exactement.
Et du coup, aujourd'hui, on voit que le site est exploité. On sait qui s'en occupe ?
Oui, donc le site, il est pâturé pour éviter du coup que cette forêt se referme et que ces clairières se referment. Donc c'est une agricultrice du boucher qui a des brebis qui permet de garder cette vocation agricole du lieu et d'entretenir ces petits espaces ouverts, clairières, etc. Il faut savoir qu'on est aussi ici sur un sentier d'interprétation du parc national des Cévennes, donc le Valade du Pradillou, c'est le nom du sentier, qu'on est bien en zone cœur et donc le site est géré aussi par l'ONF et le parc qui garantit l'ouverture de ce sentier.
Et on n'est pas par ici par hasard non plus, le pays d'arrêt d'histoire Mandelot-et-Jean-Vaudan qui a une actualité sur ce site.
Et oui, on vous amène ici pas par hasard puisqu'on va faire donc les journées européennes du patrimoine. Le 19 septembre, on sera ici avec nos partenaires, c'est-à-dire Woodboy Crew, les Seines Croisées, le Parc National des Cévennes, le CAUE, les Chemins Francis et l'ONF, puisqu'ils sont propriétaires du domaine. Donc on va proposer toute une journée à partir de 10h30 donc, en forêt pour visiter la forêt avec des balades, des visites, des expositions, donc une exposition sur les arbres remarquables in situ, des ateliers participatifs avec Caroline et Hélène du CAUE, des spectacles, donc 2 spectacles très poétiques, Être et Phasme, un diptyque de la compagnie Libertivore, donc avec Être qui est un solo de danse dans un arbre, et Phasme qui est un duo acrobatique, qui questionne ces deux spectacles sur le rapport de l'homme à la nature. Et pour terminer, un concert de Farage Souleymane dans le cadre de l'ouverture de saison des Seines Croisées, des 50 ans du parc. Enfin voilà, une journée vraiment où on peut profiter de la forêt,
du plein air,
voilà.
Ok.
Donc à venir en famille, hein, tout ça est donc très familial.
Certaines inscriptions sont demandées, donc pensez à réserver.
Les jauges sont extrêmement limitées, donc il faut absolument réserver à l'avance.
Une anecdote pour briller en société ?
Ah oui, Et oui, on t'en a trouvé une. Alors, si tu veux, si tu te retrouves avec des amis et que tu veux avoir une anecdote un peu kitu, tu peux dire...
Le charme d'Adam est d'être à poil. À ton avis, à quoi ça peut servir ?
J'en ai aucune idée. Je pense que c'est un rapport avec l'être, l'arbre, mais je n'en sais pas plus. Je n'ai pas plus d'idées.
Ben c'est ça. C'est une phrase mémotechnique qui permet de différencier le charme de l'être, parce que c'est deux arbres qui sont extrêmement proches.
Donc le charme a une feuille avec un petit peu de dents, tandis que l'être, lui, est à poil, d'où le charme d'Adam est d'être à poil. Le être a des poils, le charme est tout nu.
Et voilà.
Ben merci beaucoup, comme ça au moins on ne pourra pas se tromper. On est en septembre, prochaine émission en octobre, vous allez m'emmener où ?
Ah, alors là, on a prévu une visite à nouveau un petit peu particulière.
Spécial Halloween.
Frisson garanti. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mans des Lottes en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.